Bonjour Robin Corneille.
Bonjour Franceline.
Nous évoquons avec notre invité ce matin ces annonces faites par Barack Obama hier, ces mesures pour lutter contre le réchauffement climatique.
Oui, c'est Jean-Pascal Van Ypersel, notre invité ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'UCL, vous êtes vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En réalité, vous assurez un peu la présidence de façon intérimaire. Vous êtes en tout cas candidat pour la présidence, en tout cas une élection qui se déroulera, si je ne me trompe, au mois d'octobre.
Début octobre.
Et donc pour laquelle vous êtes donc candidat. Si les mois qui viennent s'annoncent importants pour le climat, c'est pas à cause de cette élection, mais parce que une grande conférence internationale doit se réunir en décembre à Paris. Quelques 200 pays vont y participer et dire quels efforts ils sont prêts à faire pour le climat. L'objectif, c'est de limiter la hausse de température d'ici la fin du siècle à 2 degrés, de ne pas aller plus loin. Or, ce n'est pas tellement la direction qu'on prend. Dans ce contexte, Barack Obama a annoncé hier une série de mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à la production énergétique, liées aux centrales et notamment à celles au charbon. Elles sont encore nombreuses aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez des engagements du président américain en la matière ?
Bon, alors le GIEC n'est pas là pour donner des bons points et des mauvais points à des pays individuels, mais ce que l'on sait, c'est que l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre doit absolument être réduit fortement, bien avant la fin du siècle, de manière à arriver à des émissions nulles, bien avant la fin du siècle, si on veut effectivement que la température ne dépasse pas ce réchauffement de 2 degrés qui a été décidé il y a quelques années. Donc, le plan des États-Unis est un pas dans la bonne direction. Et avant la conférence de Copenhague, de Paris, en décembre, à la fin de cette année, un plan qui vient d'un des pays qui produit un quart des émissions mondiales, c'est quelque chose de très important.
Et qui, jusqu'à présent, ne s'était pas vraiment engagé dans des mesures contraignantes. Les Américains ne donnaient pas vraiment l'exemple de mesures assez fortes pour limiter le réchauffement climatique.
C'est vrai qu'au début de sa présidence, le président Obama s'est occupé de beaucoup d'autres sujet, et c'est un petit peu moins occupé du climat. Et maintenant, pour laisser un héritage et un bon souvenir dans ce domaine-là aussi, il a l'air d'avoir mis la priorité sur ce sujet.
Oui, parce que les déclarations sont assez fortes. Il reconnaît que le réchauffement climatique, c'est un problème urgent, que c'est un problème qui concerne non pas la génération future, mais cette génération-ci. Quand on dit 2 degrés en plus d'ici la fin du siècle, on pourrait accepter ça. C'est pas très concret pour les gens, mais malgré tout, c'est quand même une hausse de température qui pourrait avoir des effets significatifs.
Vous savez, il faut comparer ça à la fièvre. La température du corps humain, c'est 37 degrés quand tout va bien. Quand on a 39 degrés, 2 degrés de plus, ce n'est que 2 degrés. Et pourtant, tout le monde sait bien, quand on a 39 degrés de fièvre, on se sent mal. Eh bien, pour la planète, c'est pas très différent. On a, au cours des 10 000 dernières années, connu un climat stable à plus ou moins 1 degré près. 10 000 ans, c'est toute la période pendant lesquelles l'agriculture, pendant lesquelles les infrastructures se sont développées. Et avec 2 degrés de plus, on risque d'avoir beaucoup plus de mal à habiter notre petite planète. Et comme le président Obama, nous n'avons pas de planète B.
Ce sont
sur le long terme des dizaines de centimètres, voire des mètres de niveau des mers en plus, menaçant toutes les infrastructures côtières dans le monde. C'est une agriculture qui aurait beaucoup de mal à s'adapter. Avec même 1 degré de plus, 1 degré et demi de plus, il y a bien des céréales dont la production risque d'être menacée, le riz, le blé par exemple. Ce sont des événements extrêmes, des sécheresses très intenses à certains endroits. Regardons ce qui se passe en Californie pour le moment avec ces incendies de forêt qui affectent des dizaines et des dizaines de kilomètres carrés et qui sont très difficiles à combattre, qui sont facilités par la sécheresse. Ce sont inversement, et c'est ce qui se passe en Asie pour le moment, au Myanmar, en Birmanie, en Inde, des pluies extrêmement intenses. Or, jusqu'à présent, le réchauffement n'a été que d'un peu moins d'un degré au-dessus du niveau pré-industriel. Donc 2 degrés, c'est beaucoup plus de tout cela, et au-delà de 2 degrés, ça...
Oui, justement, si on ne prenait aucune mesure, on serait au-delà de 2 degrés, mais de combien est-ce qu'on a une idée si on continue le train de développement tel qu'il est aujourd'hui?
Alors, si on continue le train de développement actuel, actuelle, comme vous dites, eh bien, on devrait arriver probablement vers plus 4, plus 5 degrés d'ici la fin du siècle. Et ce serait vraiment catastrophique dans bien des domaines et pour bien des populations.
Alors, évidemment, assez rapidement aux États-Unis, après l'annonce de Barack Obama, l'opposition républicaine et certains milieux industriels ont réagi en disant que ça allait pénaliser l'économie américaine parce que ça rendrait l'électricité plus chère, plus coûteuse à produire, hein, si on doit fermer des centrales au charbon. On est quand même toujours dans une opposition entre le développement économique et les enjeux climatiques. Et surtout dans cette période de crise économique, c'est compliqué à faire passer comme idée.
Je pense que l'administration américaine a bien fait les calculs pour que le plan puisse passer auprès de la population. Le président Obama a rappelé hier qu'à terme, les factures pour les citoyens américains, pour les familles américaines devraient baisser de l'ordre de 85 dollars par an. Donc, ce n'est pas forcément plus cher.
Grâce aux énergies renouvelables, c'est ça.
Grâce aux énergies renouvelables,
au fait. À terme, mais il faut d'abord investir, quoi.
Il faut investir d'abord, mais il y a un bénéfice ensuite. Le prix des énergies renouvelables partout, aux États-Unis comme ailleurs, a fortement baissé. Le vent, le solaire est devenu intéressant par rapport aux autres modes de production. Et donc, c'est un facteur qui va faciliter aussi la protection du climat dans les années qui viennent. Aux États-Unis et ailleurs, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est l'autre axe important du plan d'Obama, c'est le développement, les mesures incitatives pour développer les énergies renouvelables. Un des points importants dans la conférence de Paris, c'est de savoir ce qu'on va pouvoir exiger de différents pays, ce qu'on peut attendre aussi des pays émergents qui voient un petit peu cette situation comme injuste. Ils ont l'impression que les grandes puissances occidentales se sont développées pendant des décennies sans faire attention à la pollution, et puis que maintenant qu'elles arrivent aussi à un niveau de développement important, comme la Chine, comme l'Inde, on lui dit maintenant vos usines sont trop polluantes, il faut s'arrêter là. C'est compliqué. Est-ce qu'on doit demander la même chose à des pays comme la Chine ou l'Inde ?
On ne peut certainement pas demander la même chose aux pays qui sont en développement. Il y a des responsabilités qui sont communes par rapport au problème, parce que le CO2 a le même effet d'où qu'il vienne, mais ils sont différenciés parce que les pays développés ont émis beaucoup de CO2 pour arriver là où ils en sont, et les pays en développement ont besoin de développer leurs infrastructures, etc., ont besoin d'énergie, et donc on ne peut pas demander la même chose, ce serait indécent. Maintenant, l'utilisation du charbon comme elle se fait en Chine a des effets sur la santé humaine, aussi sur la pollution de l'air. Et donc la Chine est en train de se rendre compte aujourd'hui que ce n'est pas dans son propre intérêt non plus de tout baser sur les combustibles fossiles. Et donc la Chine est en train aussi d'aller vers une production énergétique plus efficace, basée davantage sur les énergies renouvelables, sur les énergies bas carbone, dont le nucléaire en Chine. Et donc, là aussi, il y a une évolution et il y a, en novembre dernier, eu un accord important entre la Chine et les États-Unis pour travailler ensemble sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Vous parlez de la Chine, vous ne parlez pas de l'Inde. Vous voulez dire que la Chine est peut-être plus consciente que d'autres pays émergents parce qu'on a parfois l'impression qu'ils ne font pas grand-chose. Vous dites que là, ils prennent quand même des mesures. Ce n'est pas le cas de tous les pays émergents ?
Mais l'Inde aussi a annoncé des efforts conjoints avec les États-Unis, des échanges de technologies, etc. Donc il y a un mouvement du côté de l'Inde aussi. Maintenant, il y a une part importante de la population indienne qui est très pauvre et qui a une priorité, pour laquelle le gouvernement a une priorité. C'est d'abord faire sortir cette population de la pauvreté, fournir une énergie de base. Et parfois, aujourd'hui, cette énergie de base, si on veut la moins cher, eh bien c'est le charbon, il faut le reconnaître. Donc changer cette situation-là, ça va prendre du temps et ça va peut-être prendre un peu plus de temps en Inde qu'en Chine, qui dispose de davantage de technologies que l'Inde.
Et les deux enjeux climatiques et de lutte contre la pauvreté sont liés pour vous ?
Ah, je crois ce sont des enjeux qui sont très liés. On ne va pas résoudre le problème climatique sans s'attaquer en même temps à la pauvreté. C'est d'ailleurs ce que les Nations Unies viennent de décider à New York il y a quelques jours, en finalisant ce plan pour la planète avec 17 objectifs de développement durable. Le premier objectif, c'est l'éradication de la pauvreté. Et un autre objectif dans la liste, c'est la lutte contre les changements climatiques. On doit faire les deux ensemble, je suis convaincu de cela.
Alors vous nous dites la Chine pour réduire ses ses émissions de gaz polluants mise entre autres sur le nucléaire. D'un point de vue strictement climatique, est-ce que la Belgique, qui est un pays fortement nucléarisé hein, en termes de production d'énergie, aurait intérêt à garder ses centrales?
Je vois que chaque pays doit, et encore une fois, le GIEC n'est pas là pour donner des bons points ou des mauvais points à des pays individuels, mais chaque pays doit décider ce qui est le mieux pour lui, et ce qui est bien dans un pays peut être moins apprécié dans un autre, en fonction aussi des réactions de la population, des priorités économiques, etc. Ce qui est clair,
mais c'est d'un point de vue strictement climatique, hein, si on
d'un point de vue strictement climatique,
le nucléaire est dangereux, mais
le nucléaire émet à peu près la même, contribue indirectement quand on prend tous les facteurs en compte, y compris la construction, le démantèlement, etc. Contribue à peu près aussi peu de CO2 qu'une éolienne ou que la production solaire. Donc du point de vue strictement climatique, si on ne regarde pas les coûts, les dangers, etc., ben le nucléaire émet aussi peu de carbone approximativement que le vent ou que le soleil. Ça, il faut le reconnaître.
Alors, dans la perspective de cette conférence de Paris, COP21, des différents pays sont en train d'élaborer des plans. Certains ont déjà un peu communiqué leur intention. C'est pas le cas de la Belgique. C'est compliqué en Belgique de discuter de ces questions énergétiques, de comment on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Alors c'est vrai qu'aux Nations Unies c'est compliqué avec 195 pays, mais c'est compliqué en Belgique aussi avec 4 acteurs, Bruxelles, la Wallonie, le niveau fédéral, la Flandre, et parfois il y a effectivement des difficultés à se mettre d'accord, et les Nations Unies ne connaissent que la Belgique dans son ensemble, et donc il serait effectivement utile que ces 4 acteurs finissent par se mettre d'accord sur la contribution de chacun aux efforts nationaux.
Ils vont y arriver quand même, peut-être en dernier moment, mais ils vont y arriver, vous pensez? Qu'est-ce que
je pense qu'il n'y a pas le choix. De toute façon, il y a aussi le niveau européen qui est très important et qui impose à la Belgique certains objectifs dans le cadre des efforts européens. Donc, les différents acteurs belges vont finir par se mettre d'accord. Ils seront bien obligés.
Alors, sur base des premières promesses ou déclarations d'intention qui sont sur la table, est-ce que vous êtes optimiste sur la possibilité d'arriver à un accord qui permette d'arriver à cette fameuse limitation de 2 degrés en plus à la fin du siècle?
Alors, je vais vous dire, je suis très optimiste sur le fait qu'il y aura un accord à Paris. J'étais à Bonn à une réunion
ambitieux.
J'étais à Bonn à une réunion préparatoire en juin. Il y a vraiment une volonté internationale d'arriver à un accord à Paris. Maintenant, est-ce que cet accord sera assez ambitieux? Ça, c'est évidemment la question suivante. Et le risque est élevé que ce ne soit pas le cas. Et dans ce contexte-là, il sera important qu'il y ait un mécanisme dans l'accord de Paris pour augmenter le niveau d'ambition, parce qu'on ne va probablement pas résoudre tous les problèmes d'un coup. À la fois, un accord international qui permet de coordonner les efforts, de trouver un maximum de synergie au plan international, et un accord qui est suffisamment ambitieux. Sera difficile de faire les deux en même temps.
Merci Jean-Pascal Vanipperzel. On se retrouve tout à l'heure vers 8h40, cette fois avec les questions de nos auditeurs, Franceline.
Et vous pouvez continuer à réagir et à poser vos questions au 02 737 33 33 sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, en nous écrivant aussi à matin1@rtbf.be.